Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est les rois.
Lidl ?
Ah oui, les rois de la bicyclette cet été sur les routes de France.
Mais comment ça ? Tu dérailles ?
Ah oh non patron, ça roule. Lidl est co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Quoi ? Lidl co-sponsor de l'équipe Lidl Trek ? Où j'en perds les pédales ?
Ah ça, question sponsoring, ils en connaissent un rayon.
Là t'as intérêt à mettre la pédale douce, hein. T'es mal, hein. Et tu l'auras pas Béro, volé.
Lidl, co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Vous écoutez RMC.
Éclair dans la montagne venue de Slovénie.
Tadej Pogacar a esquissé un petit sourire parce qu'il le sait, il est en train de marquer l'histoire.
Ça fait partie de l'histoire, mais on est qu'un chaînon de l'histoire.
Tadej Pogacar, plus jeune vainqueur du Tour depuis plus d'un siècle.
Quelqu'un qui aime le combat, qui ferraille, qui lâche rien.
Depuis des années,
hein,
un ange blanc bouscule tout sur son passage.
Comment on pourrait dire ces gens qui partent sur la route, pas les évangélistes, mais presque, non?
Et dans le dos, la pancarte du favori aussi.
Quand le requin vient dans la gemme, il doit pas soumettre le lion. Quand le lion il va dans la mer, c'est le requin qui est le chef.
Mais pas de quoi troubler un gamin de 22 ans, pour qui le cyclisme reste avant tout un jeu.
Levez des doutes, si vous vous en avez, je sais pas si ça vous allez les enlever.
Non, mais là, ça n'a rien à voir avec le cyclisme. Eric dit quelque chose là.
Non, moi je peux.
Allez, on rigole pas là.
Allez, on rigole pas.
On passe.
Par contre, la jungle, on peut rigoler.
La jungle.
Oui, la jungle, et puis surtout le lion qui va dans la mer.
Moi, c'est, je pense que.
Souvent, j'ai vu des lions essayer d'aller faire la loi dans la mer.
Didier Deschamps ne serait pas évangéliste.
Oui, en tout cas, Vingegaard et Pogacar, j'ai l'impression. On va revenir donc au Tour de France et on accueille Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Bonjour les copains.
Salut Christophe.
En direct d'Italie, puisque le tour part de Florence samedi.
Exactement, à Florence.
Oh, beau,
nous sommes sur une petite terrasse avec Pierre-Yves Leroux, vue sur les plus belles églises de la capitale de la Renaissance. On est très très bien là, très très bien. Et on mange des bonnes pâtes et des bonnes pizzas. On est au taquet.
Bon, alors c'est parfait pour faire un bon débat. Tour de France, Tadej Pogacar, grand favori. Jonas Vingegaard, double tenant du titre, est finalement présent au départ après une grosse chute sur le Tour du Pays Basque 4 avril. Le duel Pogacar-Vingegaard aura-t-il bien lieu? 32-16 et Twitter, hashtag RMC Live. On veut savoir donc dans quel état se trouve Vingegaard, Christophe?
Eh ben, la réponse, on l'aura peut-être ce soir, puisque 12 semaines très précisément après sa terrible chute dans le Tour du Pays Basque, on rappelle hein, qu'il avait été victime de fractures à la clavicule, fractures aux côtes, contusions pulmonaires, pneumothorax, le poumon qui est quand même un organe dont les sportifs et plus particulièrement les cyclistes peuvent avoir besoin pendant 3 semaines. Eh bien, il va donner sa première conférence de presse. Jusque-là, c'est vrai qu'il avait été très silencieux, aucune interview, aucune course disputée depuis cet accident. Et là, eh bien, tout à l'heure, dans 1h30 maintenant, il va donner sa première conférence de presse et on va savoir dans quel état il est. Enfin, on espère évidemment savoir dans quel état il est parce que on n'en saura pas plus avant le départ de la course. Ce que l'on sait, c'est que depuis cet accident, il a quand même repris le vélo le 7 mai dernier. Il a fait quelques petits stages. Ensuite, il est parti en altitude à Tignes avec ses camarades et les données enregistrées par le staff de l'équipe ont permis, eh bien, de le laisser participer à ce Tour de France. Alors on ne sait pas dans quel état il sera parce qu'évidemment quand on a de telles blessures et qu'on est le commun des mortels, il faut un an à peu près pour récupérer et là on est seulement quelques semaines après, donc on espère évidemment qu'il sera au sommet, mais ses coéquipiers ont du mal à y croire. Tige Benoît par exemple disait dans un journal belge hier, aucun des membres de l'équipe n'a pronostiqué, n'a mis un copec sur une présence de Vingegaard sur le podium final du Tour de France, donc voilà, on est quand même un peu dubitatif sur les performances du Danois dans quelques jours.
Alors en tout cas, c'est déjà presque un miracle qu'il soit là, puisqu'au moment de sa chute, on imaginait qu'il était forfait. Et ce qui est très particulier cette année, c'est que Pogacar, sur le papier, hein, n'a pas beaucoup de concurrence, parce que Roglic a aussi chuté, Evenepoel aussi. Finalement, c'est Pogacar et les autres, quoi, Christophe, un peu ce tour-là.
Alors sur le papier, Pierrot, il y a une grosse concurrence. Au contraire, c'est l'un des plus beaux plateaux réunis par le Tour de France depuis des années. Vingegaard et Pogacar qui sont les quatre derniers vainqueurs, hein, qui ont remporté les quatre dernières éditions. Roglic, qui était vraiment dans le coup, qui avait failli remporter, on se souvient, ce Tour de France, il avait été battu lors de l'avant-dernière étape dans ce contre-la-montre à la planche des Belles-Filles. Remco Evenepoel, champion du monde, vainqueur de la Vuelta il y a peu de temps. Sur le papier, c'est extraordinaire. Mais effectivement, les trois gros adversaires de Pogacar ont été victimes de la même chute lors de ce Tour du Pays Basque. Alors Vingegaard a été le plus sérieusement touché, mais les autres également ont été victimes. On rappelle quand même que Roglic vient de remporter le Dauphiné et que Remco est quand même un cador. Et puis il y a aussi les lieutenants de Vingegaard et de Pogacar, notamment Jorgensen qui a remporté Paris-Nice, qui a terminé deuxième du Dauphiné. Donc il y a du beau monde sur le papier, mais c'est vrai que Pogacar a fait une telle démonstration dans le Giro qu'il a remporté avec près de 10 minutes d'avance sur son dauphin, que comme ça on se dit qu'il n'aura pas d'adversaire, mais en tous les cas sur le papier c'est magnifique et on espère qu'on va se régaler.
Et puis bien sûr il y a une donnée à prendre en considération, on en a déjà débattu Vincent, c'est que Pogacar vient de remporter le Tour d'Italie, qui a quand même pas beaucoup de semaines de récupération entre les deux. Non, oui, mais c'est un vrai truc à gérer.
Oui, mais j'ai l'impression qu'il est plein de balles. C'est justement, il a dû surfer. Il y a eu quoi, 3 semaines, 4 semaines entre le Tour d'Italie et le Tour de France. C'est ça, c'est fini il y a à peu près un mois.
Je te le confirme.
Oui, mais c'est ça, il y a un mois et trois jours.
Il y a à peu près un mois. Écoute-moi, il a pu récupérer. Tu le vois, il est plein de balles. Il y a personne. Alors, Vingegaard, faut pas nous quand même prendre les enfants.
Vingegaard.
Écoute-moi, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il peut rien faire quand même. Ça serait nous mentir de dire qu'il peut faire quelque chose. Il peut figurer, prendre le départ. Ça sent quand même l'abandon. Avec qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, je sais pas, c'est un surhomme. Et puis il y a que Roglic, donc à partir de là, il est un peu seul. Il a quand même la voix sacrée, la voix royale pour faire le doublé.
Pour toi, il y aura pas de duel Vingegaard.
Mais il y aura pas de duel. Il va finir comme un Tour d'Italie. Il va finir mais 5 minutes d'avance. Il va éclater tout le monde. Il y aura pas de duel. Je le pense pas. Après, il peut en sortir, mais Van der Poel, bon, mais sur le Tour, il est pas. Je pense pas qu'il soit invité à ce niveau-là. Il est pas invité sur le Tour. Donc, je crois que je pense que c'est écrit. Attention, les autres tombent, il peut tomber aussi. Mais bon, je pense qu'il va être prudent parce qu'il aura le temps d'être prudent.
Eric.
Ouais, plus il a une grosse équipe, hein, Christophe. Hein, il a un peu une dream team là. Donc malgré le fait qu'il soit grand favori, je pense que il y a quand même des grands coureurs, alors qui pourront peut-être pas tenir sur les 3 semaines, mais qui seront capables de faire des coups. Et donc, on va encore se régaler, quoi. Je pense qu'on va encore se régaler. Donc, c'est toujours du très très haut niveau. Et attention, hein, Vingegaard, il peut aussi. Alors peut-être qu'il aura pas la caisse pour les 3 semaines, mais s'il revient, il peut aller.
Le problème, Christophe, enfin excuse-moi Eric, mais le problème c'est que ça démarre très fort et que Vingegaard va sûrement vouloir se tester sur le début du tour et que Pogacar va peut-être assommer le tour d'entrée de jeu, non?
C'est surtout Pogacar qui va vouloir tester son adversaire. Il y a 2 premières étapes de moyenne montagne dès samedi et dimanche. Et on l'a bien compris dans les propos de Pogacar, il a envie de mettre au supplice son adversaire dès le début. Et il sait que s'il lui met 2-3 minutes dès la première semaine, lorsque Vingegaard ne sera pas encore tout à fait remis, Vingegaard qui espère monter en puissance pendant tout au long du Tour de France et d'arriver au sommet pour la 3e semaine qui sera la plus difficile. Mais enfin, si tu prends déjà 2, 3, voire 5 minutes dans les 2 premières étapes, ça sera impossible, évidemment. De revenir, quoi. C'est ça le souci.
C'est bizarre d'attaquer par la montagne d'entrée de jeu avant, ça n'existait pas, ça, non? C'est nouveau quand même d'attaquer sur les 2 premières étapes. Avant, t'attendais un petit moment avant d'aller dans les Alpes, dans les Pyrénées, après dans les Alpes.
Mais il n'y a pas de règle, en fait. L'organisateur
fait ça. Il n'y a pas de règle, oui, mais stratégiquement, ça te fait que quand même un mec comme Pogacar, il peut assommer le tour dans les 2 premières étapes. Et bonsoir, Clara. Que sur du plat,
quand
sur
tu sais, quand, sur ils font le, plaine, quand ils font le parcours, ils ne savent pas que Vingegaard est diminué, en fait.
Ouais. Tu vois, c'est fait en amont et surtout la vraie différence par rapport aux années précédentes où on disait que la Visma de Vingegaard était la dream team et avait une équipe hors norme, c'est que là ça s'est un petit peu inversé. Il a perdu Sepkoski, qui était un coéquipier exceptionnel Vingegaard, et que maintenant c'est Pogacar, en fait, avec UAE. C'est la meilleure équipe UAE qu'il a jamais eue, Pogacar.
Et Christophe, Pogacar, il peut assumer le jaune si tôt? Parce qu'on sait que parfois porter le maillot jaune,
il y a des mecs qui prennent des jaunes à 6h du matin.
Non, mais la première semaine, même pour la geste, pour l'équipe, etc. Tu vois la course différemment. Alors forcément, tu es leader, tu vas peut-être frapper très fort, mais il faut savoir l'assumer, de porter le jaune si tôt. Ouais,
rappelle-toi, Adrien, ce qui s'est passé sur le Giro. Il a pris le maillot rose dès la deuxième étape. Hein. Il l'a porté jusqu'à la fin et il a fait qu'accroître son avance au fur et à mesure. Il a chaque fois eu envie d'éclater ses adversaires.
Il était un peu seul.
Ce mec-là, c'est un boxeur.
Il était beaucoup plus seul, Christophe, quand même, sur le Giro.
Oui, c'est sûr. Tu as raison. il n'y avait pas le même plateau face à lui. Mais ce mec-là, il a toujours envie de faire la course. Il a pas envie de perdre, il a envie de gagner tous les jours. Donc, oui. Assumer le maillot jaune avec l'équipe qu'il a, je pense qu'il peut le faire.
Après, il redoute quelque chose, Pogacar. C'est ce contre-la-montre la veille de l'arrivée. Parce que là, il sait qu'il n'est pas forcément le plus fort sur le contre-la-montre et que perdre 2 minutes, ça peut arriver sur une étape comme celle-ci. Et donc, il va falloir qu'il fasse la différence avant. Ça peut.
Il aura de l'avance.
Quand même donner un intérêt supplémentaire à ce tour, parce qu'il y aura toujours dans sa tête, jusqu'à l'avant-dernière étape, c'est bien la veille de l'arrivée, on est d'accord. Hein,
le contre-la-montre, ce sera le jour de l'arrivée.
Le jour de l'arrivée. Il y a toujours cette dimension-là qui va lui trotter dans la tête. Il en a parlé aujourd'hui dans sa longue interview dans l'équipe, hein, où il sait que tout peut se passer. Tu peux avoir un éclat, Vingegaard est meilleur que lui sur cette discipline-là. Et donc, il va devoir, quoi qu'il arrive, accroître son avance, continuer de prendre des risques. Ça peut nous éviter peut-être un tour soporifique et comment dire, assommé d'entrée de jeu par Pogacar. Il devra prendre des risques, non ?
Ouais, mais enfin, si Pogacar leur met 3, 4, 5
ça,
minutes jusqu'à la dernière étape, ce sera difficile de rattraper un tel retard. Alors évidemment, ça c'est la volonté des organisateurs d'avoir voulu faire comme ce qui s'était passé en 1989. Vous vous rappelez le contre-la-montre qui est resté dans les annales avec la bagarre entre Fignon et Lemon, et Fignon qui avait perdu le tour pour quelques secondes. Ils espèrent, mais pour cela, il faudrait que les deux hommes soient séparés d'une minute, 1 minute 30 maximum. Si on est au-delà, Pogacar ne prendra pas un éclat de 3 ou 4 minutes dans le dernier contre-la-montre.
Toi, tu le sens Chris, ce tour ?
Quoi ?
Toi, tu le sens comment ? Ça va ressembler au Giro ?
Non, parce que le plateau est plus beau. Il y a quand même plus de beau monde quand même. Il y a tous les meilleurs, hein. Tous les cadors sont présents au départ du tour. Alors ils sont plus ou moins diminués, mais ils sont tous là. Mais c'est vrai que Poggi est tellement fort qu'on a peur, on redoute évidemment, surtout de. Qu'on s'est tellement régalé l'année dernière, il y a 2 ans, et il a fallu attendre la dernière semaine pour que le tour bascule d'un côté ou de l'autre, qu'on espère avoir la même chose. Mais bon, c'est vrai que cette chute dans le Tour du Pays Basque a rebattu les cartes.
Tu nous refroidis un peu sur cette dernière étape quand même, Christophe, le contre-la-montre, parce que quand même là, il y aura quand même beaucoup plus de risques malgré tout. Comme le dit Pierrot, il y a des conditions de course qui sont différentes de la parade sur les Champs-Élysées à laquelle on a le droit chaque année. Je veux dire, s'il a une grosse contre-performance en contre-la-montre, imagine, on sait pas, il a une fringale, il a coup de mou énorme. Il est tout seul.
Une crise hypoglycémie.
Non mais je veux dire, il est seul. Il n'y a pas de coéquipier qui vont être là pour aller le chercher, pour le couvrir, pour s'occuper de lui. Non mais on sait jamais.
Tout dépend avec l'avance.
Ça dépend de l'avance. Ça dépend de l'avance. C'est quoi, Christophe ? C'est 2 minutes ?
Ouais, au max, vraiment même
à moins de 2 minutes, on peut espérer un peu de suspense.
C'est pas une pipe, pour Pogacar non plus contre-la-montre.
Ouais, c'est ça. Non. On évoque toujours le contre-la-montre de l'année dernière à Passy. Il avait pris quoi, 1 minute 38, je crois, Pogacar.
Voilà,
et il termine deuxième de l'étape quand même derrière Vingegaard. Donc tu vois, il prendra pas un éclat de plus d'une 2 minutes au maximum. Mais Vingegaard,
il arrivera avec 5 minutes, le
Vingegaard de l'an dernier dans 15 jours. Moi, je suis pas sûr. Hein.
Je crois qu'il y a que les Français. Il y a que les Français qui vont pouvoir sauver ce tour.
Les Français vont en parler demain. Ne t'inquiète pas. Ils sont ambitieux, figure-toi.
Voilà,
Quel genre d'ambition?
On demandera à Christophe demain. On a la troisième équipe de l'année.
Christophe revient encore demain. Ça fait beaucoup de boulot pour Tatov, ça.
Et c'est normal, ouais, c'est le Tour de France.
Arrête, je suis débordé, Steve, tu ne te rends pas compte.
S'il y a un invité surprise, ça peut être qui, Christophe, pour troubler ce duel-là?
Chauffeur du bus.
Moi je mise sur un garçon qui s'appelle Jorgensen, qui est équipier de Vingegaard. La Visma a dit non, il n'est pas fait pour gagner le Tour cette année. Il a gagné Paris-Nice, il a fait deuxième du Dauphiné. C'est un jeune Américain qui est aussi doué dans les courses d'un jour que dans les courses par étapes. Moi, je pense que si Vingegaard explose rapidement, je pense que c'est une sacrée roue de secours pour la formation Visma.
Oui, parce que forcément, ils ont prévu cas où Vingegaard même ne participait pas. Donc ça, ils l'ont anticipé forcément. C'est bon. 32-16, le duel Pogacar-Vingegaard aura-t-il bien lieu ? Nous accueillons Mickaël. Bonjour Mickaël.
Comment il va ?
Bonjour.
Salut.
Bonjour à tous.
Salut Mickaël.
Sur la question, moi je me suis dit depuis déjà des mois que ce ne sera pas un match à 2 mais un match à 4.
Avec qui ?
Avec Evenepoel et Roglic en plus.
Alors Roglic, le problème de Roglic, c'est que il a montré sa limite face à Pogacar. C'était il y a 3 ans, Chris.
Ouais, il a quand même une sacrée équipe hein, aussi hein, autour de lui. Hein.
Ouais.
L'UAE, mais lui, il a Vlasov et Hindley. Il a quand même une sacrée équipe et Remco, voilà aussi. Evenepoel, bon, il a quand même Landa avec lui. Et Remco, il a un avantage, c'est que sur le contre-la-montre, il a, je pense, une longueur d'avance.
Ouais, mais il avance pas en montagne. Il avance pas en montagne, Evenepoel.
Ah bah, quand tu gagnes, il a gagné la Vuelta et l'an dernier.
Cette année, il avance pas. Tu as vu les éclats qu'il a pris dans le Dauphiné? Tu penses qu'il peut battre Pogacar, franchement?
Et en 2014, Nibali, il termine bien 3-4 minutes et il gagne le tour un mois plus tard. C'est pas parce qu'un mois plus tôt sur le Dauphiné, vous êtes à la rue, qu'un mois plus tard sur le Tour, vous serez à la rue. Evenepoel, l'an dernier, s'il n'est pas contrôlé positif au Covid sur le Giro, il le gagne. Donc, je pense que voilà.
Après, Thibaut Pinot, s'il ne se blesse pas, il gagne le tour aussi.
Aussi. Donc, voilà. Après, Vingegaard, je pense que s'il a été en stage à Team, c'est pas pour rien. Si l'équipe Visma l'a pris, c'est qu'il est à 100%, parce que sinon, il ne l'aurait pas pris, je pense. Il ne va pas sur le Tour de France pour aller faire du tourisme. Donc, je pense qu'il sera là et on connaît Vingegaard, c'est un champion. Voilà, l'an dernier, il a explosé Pogacar et je pense qu'il sera là et puis Pogacar.
Pogacar
est tellement au-dessus de la mêlée, Pogacar, que voilà. Mais après, sur le Giro, il y avait Daniel Martinez, Thomas et O'Connor. Sur le Tour, il n'y aura pas cette même concurrence.
Sur le Karoglic, Christophe, je sais pas si c'est il y a 3 ou 4 ans, mais il avait un tour pour lui, entre guillemets, c'était écrit qu'il devait le gagner. Et puis il y a ce jeune Slovène, donc son compatriote, qui l'avait éclaté. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas laissé la place.
Contre la montre, rapidement.
Exactement.
C'était dans un contre-la-montre la veille de l'arrivée. Donc un peu dans la même configuration que cette année.
Sa chance est passée, non ? Roglic.
Roglic, je pense, ouais. Ouais, Roglic, il a quoi, 33.
Ah, Mika n'est pas d'accord.
Mika,
oui, vas-y. J'allais dire, et comme on est toujours dans le cyclisme, ce n'est jamais une science exacte.
Oui,
voilà. Mika, on ne le dit pas que dans le cyclisme.
Parce qu'on parle toujours d'un duel, le duel Pogacar-Vingegaard, mais en fait, on ne sait pas.
On n'en sait rien. On se donne rendez-vous alors, Mika.
Est-ce que
Mario Cipollini est capable de gagner l'étape par temps ou pas?
Ah non, mais quand même. Non, mais voilà.
Non, mais il y a Cavendish là. Qui c'est qui fait son dernier tour, son jubilé?
Cavendish, mais pas en montagne.
Non,
Cavendish pour les sprints.
Est-ce qu'il peut aller chercher une là du coup? Parce que il est là pour ça, lui.
Ah oui. Alors là, pour les victoires d'étape, c'est un autre truc. Mais bon, il y a quand même un Philipsen qui avait remporté 4 étapes l'année dernière, qui est vraiment au-dessus et qui a quasiment 10 ans de moins que lui. T'as des jeunes sprinteurs qui sont au sommet, mais ce serait extraordinaire parce que on rappelle que Cavendish est à la recherche du record de nombre de victoires d'étape sur le Tour.
C'est quoi, 35?
Pour l'instant, il partage ce record avec Eddy Merckx. Et s'il en remporte une 35e, eh bien, il sera le plus grand de tous les temps.
Enfin, d'avoir gagné 35 étapes, ouais. Il a gagné 34 là et 35 qui serait seul.
Merci Eric pour cette question, parce qu'on pensait que tu avais disparu du débat.
Je te jure, je me suis posé la question, c'est Denis qui est parti ou Eric?
Non, attends, c'est le
supporter avec le coq là qui vient de m'interpeller.
Oui, c'est Stéphane.
Bon, remercie Mickaël qui est chaud bouillant pour ce Tour de France, qui va écouter RMC, parce que Christophe, évidemment, comme chaque année, comme chaque été, le Tour c'est en intégralité sur RMC.
C'est bon,
oui, tous les jours. On va vous permettre de partir encore en vacances. Heureusement qu'on est là quand même pour vous permettre
c'est
de
vrai.
Partir en vacances.
Merci Christophe.
Moi je suis en vacances 11 mois et un mois, mais c'est pas mal. Moi je trouve que la répartition est très bonne comme ça.
Merci beaucoup Christophe. Demain on va parler des chances des Français. Et il y a une équipe. Attention, méfie-toi de la G2R Décathlon, la mondiale. Je sais pas combien ils ont de noms, Chris, mais ils sont très ambitieux. On va en parler demain.
Mais pas pour le classement général.
Non, mais on va s'amuser quand même avec les Français, on espère en tout cas.